Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, nous allons consacrer une large partie de cette émission à la sortie du film Tout va super, le nouveau film de Patrick Cassir qui sortira mercredi au cinéma. Patrick Cassir sera avec nous en fin d'émission avec Marie Colombe et Noémie Lovski. Et puis nous allons également parler de Scène de ménage, le Prime Cap sur la Bretagne, ça sera demain soir sur M6. Le couple qui va se marier, bah oui, David Mora et Anne-Elisabeth Blateau, Emma et Fabien seront avec nous dans quelques minutes. Haute saison est de retour sur France 2, Joséphine Dry sera notre invitée pour en parler. Et puis samedi soir, c'est un nouveau crime à Cluny, ce coup-ci, qui nous attend sur France 3. À cette occasion, la réalisatrice Céline Guéraz, mais également Sandra Dorsey et Marie-Fève Sherman seront nos invités. Et puis on va démarrer tout de suite avec notre spécial Été 36 qui continue cette semaine. Et c'est Sam Carman qui nous rejoint pour cette deuxième semaine de diffusion. Alors c'est parti, on démarre tout de suite notre numéro de Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à l'été 36 qui continue cette semaine avec les épisodes 3 et 4 qu'on va pouvoir découvrir au milieu de toutes ces femmes. Il fallait un homme quand même à poigne, Sam Carman, qui est notre invité, qu'on met à l'honneur aujourd'hui dans le rôle d'Henri de Pontaviscaro. Bonjour Sam.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que Henri de Pontaviscaro, c'est quelqu'un effectivement, donc il y a deux filles, dont une qui fait son retour à Nice sur sa demande, Henri, parce qu'il a plein de choses à révéler. Il a révélé qu'il était malade, enfin voilà, il a essayé de l'amadouer un petit peu. Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est ce qu'on découvrira évidemment dans la suite. Déjà, quelle est la première chose qui vous a attiré, Sam, dans cette aventure?
L'écriture, la construction des personnages, la caractérisation des personnages, le fait que chaque personnage dans cette série suit sa destinée et qu'elle est extrêmement précise. Et c'est cette richesse de parcours qui se croise qui m'a beaucoup plu. C'est un film choral, même si les quatre personnages féminins, c'est le triptyque féministe d'Iris Buchet, la productrice, après le bazar de la charité et les combattantes. Et les femmes sont à l'honneur. Et c'est magnifique dans cet été 36 de voir comment le vieux monde, l'ancien monde que j'incarne. J'incarne le patriarcat le plus farouche, celui qui veut préserver des intérêts. C'est le patron du MEDEF, mon personnage. Mais c'est un homme, je pense, c'est un homme juste. À partir de là, quand les événements vont changer, il va comprendre. Lui aussi va bouger. Il n'a pas de fils, et pourtant tout son enjeu, c'est l'héritage. Il dit, l'héritage, c'est un devoir, c'est une mission quand on hérite.
C'est pour ça qu'il veut absolument connaître Louis, son petit-fils.
Exactement. Et ça, on l'a vu dans les deux premiers épisodes. Il fait la connaissance de Louis. Et puis les choses vont un petit peu se tordre. Il y a cette histoire, effectivement, d'assassinat. Sa fille Blanche est inculpée. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, c'est son monde qui bascule. Si sa fille est accusée de meurtre, et puis même à la fin du deuxième, c'est même son gendre qui vient s'accuser à sa place. Toutes ces fondations,
tout vacille. La famille vacille.
Tout vacille. Et donc, comment il va réussir à garder le cap et à continuer sa trajectoire? eh ben il va le faire. Je veux pas spoiler les épisodes suivants, mais il va ouvrir les yeux et ses certitudes vont bouger. Les lignes vont bouger pour Henri Pontavis-Caron.
Alors Henri a deux filles, hein. La première Eugénie, dont il avait plus de nouvelles depuis longtemps, qui a refait sa vie avec Jean, qui travaillait dans une usine. Alors ça, c'était pas évidemment dans une famille bourgeoise, ça se faisait pas à l'époque. Et puis sa fille Blanche, incarnée par Julie Debona, qui était la maîtresse de Jacquard. Hein. Enfin, ouais, c'était un bazar pas possible, effectivement, quand tout ça arrive au grand jour. Ça devient un peu la honte de la famille, tout ça, finalement.
Complètement. Et comment justement, avec une qui est en prison, l'autre qui est en rupture de ban, comment réussir à tenir les deux bouts? C'est tout l'enjeu de ce qui va se passer, de l'avancement de l'enquête. Parce que l'avancement de l'enquête, c'est aussi au fur et à mesure de l'avancement de cette enquête que les choses se resserrent et que les parcours se définissent vraiment. C'est en quoi, pourquoi c'est intéressant. Voilà. Le personnage d'Henri, pour parler du mien, il part d'un point A et il va à un point B pendant les six épisodes.
Mais parce que c'est ça qui est intéressant de cette série, c'est que ça fait très saga familiale aussi, avec des secrets de famille inavouée, et puis du polar aussi un peu à la Agatha Christie, une sorte de cluedo qui vient se renfermer sur chacun des personnages qu'on va tous soupçonner les uns après les autres, mais c'est ça que j'ai trouvé très très chouette effectivement au fur et à mesure du scénario et de l'évolution des épisodes qu'on voit.
C'est un peu Agatha Christie avec les congés payés, mais c'est aussi un petit peu un air de succession. Mais cette série.
Série d'époque, effectivement, en costume d'époque, en sorte parachuté en 1930. C'est ça aussi la magie pour un comédien, c'est de pouvoir se parachuter dans n'importe quelle époque, dans n'importe quel costume de personnage. Est-ce que ça aide, ça, justement?
On rejoint l'enfance. Là, vraiment, on est des enfants au milieu de... On vous met un costume, on vous met dans des décors, et tout d'un coup, tout ce qu'on a travaillé se crédibilise. Je voyais mes filles, je voyais tous les personnages du film dans ces décors-là, que ce soit Pascal Elbé, François-Xavier Demaison qui fait l'enquête, le commissaire, mais tous les autres personnages, tous mes camarades qui étaient là, je les trouvais absolument magnifiques, chacun dans leur direction, chacun dans leur milieu social. C'est un plaisir fantastique que d'être transposé dans une époque de cette façon, plongé dans une époque. Ouais.
Alors c'est vrai que Henri a quand même une alliée de poids et à la fois une femme à poigne incarnée par Miu Miu.
Bah oui, c'était formidable. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dit que j'allais avoir le plaisir d'échanger des répliques et des scènes avec Miu Miu. Et c'était formidable. Elle a composé un personnage très revêche, très rentré, incroyable. Et toute la
journée. Pas beaucoup ses émotions.
Non. Mais ces émotions, c'était le matin avant le maquillage et le soir après avoir enlevé la perruque et tout. On retrouvait la Miu Miu qu'on connaît, tout à fait charmante, épanouie, joyeuse. Et pendant toute la journée, extrêmement concentrée dans son personnage tout le temps. C'était, moi, ça, j'ai beaucoup aimé la regarder travailler.
J'imagine, et puis partager effectivement des scènes avec cette comédienne qu'on adore tous, effectivement, c'est génial.
Et qu'on a vu dans des dizaines et des dizaines de films. Non, vraiment, c'était un grand plaisir.
Quel restera le meilleur souvenir de ce tournage?
Mais je n'ai pas de meilleur souvenir, j'ai un plaisir constant. C'est fou comme ce film, justement peut-être parce que c'est un film d'époque et que ça soit en décor naturel à Nice, pour les extérieurs, ou certains décors même intérieurs, mais à Nice.
Et tout l'équivalent de trois films en plus, là.
Et les autres, quand on a terminé à Bry-sur-Marne en studio, c'est un film, l'ambiance d'un film ressemble à son metteur en scène. Et là, il faut revenir à Fred Garçon. Parce que ce garçon est vraiment un grand, grand metteur en scène. Il est d'une mansuétude, d'une empathie, d'une attention avec chacun d'entre nous. Quand il met en place des scènes où il y a 10 personnes dans la scène, et je peux vous avouer, mais 10 comédiens et comédiennes sur un plateau, ça ne fait que parler, mais il faut, c'est vraiment la cour d'école. Et il arrive sans autorité, sans faire la grosse voix, s'il vous plaît, mais il arrive simplement à prendre le pouvoir pour avoir le silence et simplement expliquer ce qui va se passer. Et quand on rentre dans la scène, au fur et à mesure, il sent les petites frustrations à droite à gauche parce qu'il se dit, ah, lui, il se demande si, ou elle, si ça, ce qu'il est en train de faire, ça va être capté, il est très loin dans le cadre, il vient nous voir, on se dit, ne t'inquiète pas, je sais que ce passage-là, mais je vais le reprendre, pour l'instant, t'es là, tout ça, ah oui. Et donc, il nous rassure, il sait qu'on comprend la grammaire du découpage et que, voilà, on sait que notre tour va arriver, on va être traité, et la subtilité qu'on voulait mettre, elle va exister. Et on le voit quand on voit le film fini. Ces beaux souvenirs, c'est ça. C'est le plaisir de travailler avec Fred. Et avec tous ses camarades talentueux.
Mais oui, c'est vrai que c'est, voilà, c'est une série vraiment chorale. Vous êtes très nombreux par moments sur certaines scènes. On a eu la scène, par exemple, à la fin de l'épisode 2, qui s'est terminée, notamment avec, cette scène du pique-nique. Vous étiez très nombreux avec l'arrestation de Blanche, en plein milieu de ce pique-nique.
Ouais, ouais.
Ça serait une confusion. Ça, c'est difficile à mettre en scène, tout ça. On y a demandé à Fred la semaine dernière. C'était assez dingue.
Oui, oui. Dans l'espace comme ça, on était sur ce plateau à 360 degrés, mais il y avait quand même des contraintes parce que il y avait des découvertes. À chaque fois qu'on voyait Nice en dessous, c'est beaucoup d'argent parce qu'il va falloir tout refaire, hein, en effets spéciaux. Donc, il y avait des subtilités de cadrage pour dire un peu, mais pas trop. Et c'était très complexe, très complexe.
Oui, il ne s'agissait pas de voir une voiture moderne passer derrière. Bon, merci en tout cas, Sam, d'avoir été avec nous. On va découvrir enfin la suite. Hein. Épisode 3 et 4, c'est l'été 36 sur TF1, 21h10. Et puis, on se dit à bientôt.
À bientôt.
Et puis la semaine prochaine, c'est Constance Gay qui sera notre invitée. On parlera de Léonie Morel, la demi-sœur de Julia, que vous avez peut-être découvert, en tout cas si vous avez vu les deux premiers épisodes. Et si vous ne les avez pas vus, ben c'est simple, TF1+. Voilà. Et vous pourrez les découvrir gratuitement en replay. Merci beaucoup, Sam.
Merci à vous.
C'est nos premières vacances. Je veux qu'on en profite.
Bienvenue au Riviera.
Oh, Julia, quel plaisir de vous revoir.
Bonjour, Madame Ackerman.
Adrien Jacquard, 45 ans, tué entre minuit et 1h du matin. Personne ne quitte l'hôtel sans mon accord.
Adrien, tu t'en fichais. Tu l'as pris, tu l'as jeté, tu t'es comporté comme une garce.
Un meurtre, c'est d'abord un mobile.
Faut que je récupère le dossier de l'affaire au commissariat. Comme ça, j'aurai de quoi mener ma propre enquête.
Mais quelle enquête ?
T'approches plus jamais de ma famille.
Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir.
L'été 36, prochainement sur TF1.
Allez, ne bougez pas dans un instant. On parle de scène de ménage. David Mora et Anne-Elisabeth Blatteau seront nos invités. Et puis Joséphine Drey nous rejoint pour autre saison. On parle de crime à Cluny. En fin d'émission, Patrick Cassir, Marie Colombe et Noémie Lovski. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. C'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Soirée à part, personne me regarde, pourtant je suis là, juste sous leurs yeux. Je m'efface, je prends pas trop de place, quoi que je fasse, je suis seule au milieu du salon. Pas de talons, style de garçon, je reste à distance de ceux qui dansent. J'ai pas quoi faire de moi. Sans mieux, un peu plus loin des gens. J'ai pas quoi faire de moi. Parfois, je me demande si tous les autres font semblant. Sûrement, j'ai mis un mini short. Alors que je préfère les jeans, j'ai les yeux qui débordent. Je fais genre d'être sur mon tel, ça fait dans ma tête. On est trop dans la pièce, le cœur bat à toute vitesse. Ils sont tous trop grands, bruyants, à l'aise. Et moi je suis là, j'ai pas quoi faire de moi.
Bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, c'est l'un de vos couples emblématiques hein, de scène de ménage. C'était le quatrième à arriver dans l'aventure, mais pas des moindres, ils sont là, et oui. Anne-Elisabeth Blateau et David Mora sont nos invités, Emma et Fabien, qui vous accompagnent chaque soir du lundi au samedi à 20h40 sur M6. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors moi, je suis très content parce que je vous ai rarement tous les deux ensemble. Et là, eh bien, voilà, je vous ai eu souvent séparément. Mais là, pour la première fois que quasiment je vous ai ensemble, moi, j'ai envie de vous demander déjà, première chose, mon cher David, comment tu vois Emma? Comment tu la définirais, toi, pour quelqu'un qui n'aurait jamais regardé Scène de ménage, par exemple?
Pour moi, Emma, c'est un grand cœur sous une armure. Elle est plus sensible qu'on croit. Malgré tous les combats qu'elle mène, malgré son adoration pour les extraterrestres, et puis aussi par rapport à son ambition naissante dans son boulot en fait, qu'elle avait pas au tout début. Voilà, et puis elle commence à être de plus en plus romantique, c'est vrai.
Anne-Elisabeth, comment tu définirais Fabien, toi ?
Non, je pense que vraiment Fabien est... Et l'exact, presque l'exact opposé d'Emma. Vraiment, d'ailleurs, elle parlait dans un texte, on parlait de leur rencontre, leur première rencontre, enfin quand ils ont commencé à se fréquenter, disons. Et elle n'était pas du tout sûre que ça allait coller. Hein. Je pense qu'elle était un petit peu impressionnée par son niveau intellectuel, etc. Mais je pense qu'elle se disait qu'il était autiste, ouais, qu'il parlait que d'histoire. Enfin, je veux dire, je pense que pour Emma, elle l'a rencontré, elle s'est dit, ouais, bon, ça va être sympa quelques mois, quoi. Et je pense qu'elle est vraiment tombée amoureuse et qu'elle est de plus en plus amoureuse de lui parce que c'est quand même un personnage avec qui on, elle le dit d'ailleurs, on ne s'ennuie pas.
C'est clair. C'est vrai, on s'ennuie pas avec Fabien.
Il a 1500 passions. Il amène toujours un truc hallucinant et je pense que ça l'amuse et que c'est pour ça que ça marche aussi entre eux, quoi. Parce qu'elle s'ennuie pas. Voilà.
C'est vrai qu'il y a de quoi pas s'ennuyer. C'est quand même le seul couple avec des enfants. Aussi, parce que la petite Chloé, elle a sacrement bien grandi.
Ouais, d'ailleurs, on a beaucoup de messages des gens qui, avec les diffusions, parfois, elle fait un bond physique.
Là, elle est à l'âge où, en quelques
mois... Disons le vendredi, elle a 5 ans le samedi, quoi.
Elle a 11 ans maintenant.
On a tourné avec elle l'autre jour, on l'avait pas vue depuis 4 mois.
Ouais,
waouh. C'était plus la même personne, c'est très impressionnant.
Bah, elle est plus grande que toi, déjà.
Ouais, calme-toi, c'est pas faux.
Non, mais pour revenir juste sur la rencontre et tout, on a fait un sketch l'autre jour qui nous a fait bien fait rire, où en fait Emma, elle a fait la déco de notre rencontre en fait dans le salon avec
dans un bar,
un baby foot, avec les petites tables, les petites chaises et tout. Et puis donc elle a fait ça bien, elle est vraiment investie dans son délire. Et en fait je lui dis mais on s'est jamais rencontré là en fait. C'est quelqu'un d'autre. C'était un autre mec.
Je réalise que merde, c'était avec Jérôme, pardon.
On s'est rencontrés à la pizzeria. Elle se plante de nom en plus de pizzeria. Enfin, rien ne va, mais c'est drôle. Je vous signale quand même qu'il y a eu une scène où on parle de notre mariage. Il y a ma belle-mère, donc Valérie Mérès. Et en fait, tu me dis, non, moi, j'ai pas envie d'être à la table avec Fabien, là. Il est chiant.
Il va chialer tout le mariage.
Il va s'évanouir, c'est bon.
Le prenez pour une petite chose, quoi.
Ben ouais. Moi, je suis offusqué. Enfin.
Ah ouais, c'est sûr, il est extrêmement sensible. Il est d'une sensiblerie qui parfois agace mon personnage. C'est normal. C'est-à-dire, quelqu'un, c'est un anniversaire. Il souffle des bougies. Il va pleurer. Enfin, forcément, le personnage d'Emma ne comprend pas ça. Elle n'a pas été élevée comme ça. Elle a été élevée à la dure. Elle n'a pas été élevée dans l'émotion permanente. Donc oui, ça crée des tensions.
Aussi une image du mariage tellement romantique et tout, enfin avec tous les clichés.
Non.
Voilà, c'est ça. Donc forcément pour elle, c'est pas possible.
Mais là, je te rejoins. Je pense que sur toutes ces années, Emma, mais c'est normal à force de vivre avec quelqu'un. Je pense qu'elle a accepté ses propres émotions aussi, et elle s'autorise à être émue. Cette préparation de mariage avec lui, où elle est vraiment émue, elle veut vraiment lui dire je t'aime à sa façon. Et je pense qu'au début, le personnage était beaucoup plus rugueux et beaucoup plus rude que ça. Et qu'elle elle s'est quand même adoucie à son contact. Et puis, elle s'est élevée à son contact. Elle a lu des choses. Il lui a fait lire des livres. Enfin, il y a quand même une très belle histoire, je trouve, derrière tout l'humour entre ces deux personnages.
On parlait des personnages. Moi, j'ai envie de parler un peu, justement, de David et Anne-Elisabeth maintenant. Est-ce que, après toutes ces années où vous connaissez presque par cœur, vous arrivez encore à vous surprendre tous les deux dans votre jeu?
Ah bah ouais, je pense que tout chaque jour de tournage j'espère, j'ai l'impression qu'on arrive toujours à se surprendre et
à partir du moment où nos personnages évoluent et que donc on doit rajouter une palette de jeu à notre personnage, forcément on va surprendre son partenaire puisqu'on va jouer un peu différemment. Là où on nous attendait pas, le personnage y va, donc la façon de jouer elle va être un peu différente, et David me fait toujours énormément rire, de toute façon. Donc oui, les fous rires nous arrivent toujours en plein travail, je veux dire, où vraiment il fait quelque chose, c'est pas possible, c'est trop drôle.
C'est vrai que, c'est peut-être aussi une chance, hein, mais on se lasse pas parce qu'on réalise la chance qu'on a déjà, d'avoir ce public qui nous suit depuis tant d'années. Et que voilà, à tous les postes dans la production, en fait, tout le monde se démène pour faire du mieux qu'il peut. Et du coup, ça, j'ose espérer que ça participe à la longévité du programme. Donc voilà, pourvu que ça dure encore bien de 20, 30 ans, ouais, je pense.
Ça serait pas mal. Scène de retraite, ça serait marrant, ça. Dis donc.
Très bonne idée. Je la note immédiatement. Je la transmets à la production.
Voilà. Bon, dites-moi tous les deux aussi, est-ce que ça fait du bien? Quand vous avez des épisodes un peu spéciaux, des primes, comme vous avez eu en février, qui a été diffusé, que vous avez été tourné en Bretagne, bon, en novembre, hein, ok, mais est-ce que ça fait du bien de prendre l'air des fois des studios?
Toujours. Et pour tout le monde, pas que pour nous, hein, pour l'équipe aussi, hein. On part avec notre équipe de Paris. Après, il y a une autre équipe, la régie sur place, qui est dans la région dans laquelle on tourne.
Ça vous enlève votre routine finalement des studios?
Mais ça fait un bien fou de se retrouver à faire scène de ménage dans des décors naturels. Parce que nous, on est en studio quand même, enfermé toute l'année. Donc tout d'un coup, avoir nos personnages dehors, oui, ça leur fait du bien, je pense.
Oui, en général, nous, on a 2-3 jours par couple dans un décor extérieur. Donc pour les équipes techniques, c'est comme s'ils partaient sur des épisodes de téléfilms plus ou moins.
Oui, ça leur fait un long métrage.
Voilà, il reste 3 semaines en général sur place à tourner avec tous les couples. Nous on fait des petits passages.
Quelle aventure. En tout cas, ça dure depuis 15 ans, plus de 15 ans. Et le succès se dément pas. Les téléspectateurs sont toujours aussi nombreux à suivre vos facéties qui nous font tellement rire. On va parler de vos projets à tous les deux aussi. Est-ce qu'en dehors de scènes de ménage, justement, on sait que vous tournez par session de couple. Donc ça vous laisse du temps. C'est aussi ça qui est chouette sur une quotidienne comme celle-là. Ça vous laisse un petit peu de temps pour faire d'autres choses quand même à côté.
Oui, en s'organisant très en amont, on peut se débrouiller, mais parfois on peut pas toujours changer les dates, on tourne quand même toute l'année. Après on peut s'arranger, voilà, mais faut
se... Il y a des choses qui arrivent du coup?
Non, là pour l'instant, à part par moi qui dois écrire, c'est tout ce qui va arriver, je pense. C'est
écrire ton propre film? Spectacle?
Oui, enfin, film, téléfilm, tout ce qu'on veut, unitaire. En tout cas, oui, j'ai une idée, j'ai commencé à travailler dessus.
Voilà. On suivra ça de près. Et toi, mon cher David?
Moi, écoute, l'année dernière, j'ai eu deux projets. C'était, comme tu le sais, le nounou, là. Donc, avec Charlotte Gassiot, on fait les guests d'un des épisodes, à la ferme. Et j'ai eu 6 jours sur Quasimodo de Jean-François Richer pour Netflix. Et donc ça, ce sera une diffusion, je pense, en octobre, quelque chose comme ça. Mais sinon, depuis, je suis ouvert à toutes les propositions. Voilà.
Et ben voilà, c'est dit. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous. On continue à suivre vos aventures, hein, tous les soirs du lundi au samedi à 20h40 sur M6. Pour le meilleur et pour le rire, merci à tous les deux.
Merci à toi.
Merci.
Tu montes faire les valises, moi j'annule tous mes rendez-vous et on part ce soir.
Des scènes de ménage plus à l'ouest que jamais.
À nous la Bretagne, tonton.
Il n'y a pas à nous la Bretagne, tonton.
La Bretagne.
T'as jamais vu la mer?
J'avais jamais vu d'eau si près.
Du grand air.
Oh putain, qu'elle est froide!
Pourquoi t'es revenu? T'as fait la moitié, une moitié dans un sens ou dans l'autre, enfin c'est pareil!
Des produits locaux.
Bienvenue à la Crêpe School Academy.
Ben, j'ai forcé sur le gaz. Et puis.
Et un mariage celtique.
Ah bah ben, là, ouais!
Oh les pompes!
Bon, vous avez des choses à nous dire?
Une inédit, scène de ménage, Cap sur la Bretagne, mardi 26 mai à 21h10 sur M6.
Et notre coup de cœur télé consacré à Haute Saison qui fait son grand retour, ça sera vendredi soir sur France 2. Et pour les petits malins et les chanceux, eh bien vous avez France.tv qui vous a déjà mis l'intégralité des 6 épisodes en ligne. Et Haute Saison, l'été va s'annoncer brûlant une fois de plus à Biarritz, surtout pour Lisa, qui est jouée par Joséphine Drey, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Joséphine.
Bonjour, je précise tout de suite, c'est quand même Biarritz et tous les alentours, hein. on n'est pas qu'à Biarritz. Hein.
Mais justement, on va en parler de la Côte Basque, effectivement. Ouais. Alors, ça a été un succès incroyable, le pilote, l'année dernière, plus de 5 millions avec tous les replays. Ouais. J'imagine le bonheur vous avez eu, toute l'équipe, à voir déjà les audiences et à se dire, eh ben allez, on y retourne pour une saison entière.
On était trop contents de se retrouver toute l'équipe parce que justement, il y a une vraie alchimie de notre bande de comédiens et de la bande des personnages, justement, je trouve que c'est la force de la série, c'est l'alchimie de cette bande et ça venait aussi du fait qu'on était tellement heureux de se retrouver et de retravailler ensemble que ça transpire à l'écran et ça se sent qu'on est heureux d'être ensemble et de se retrouver donc ça se met partout dans toutes les images et dans la progression des épisodes et c'est une force.
Alors c'est vrai qu'entre Flic et Géo Club Med pour Alex, ça a été quand même le grand écart.
Oui,
on peut dire.
Oui, un grand écart, oui, ça c'est sûr.
Et dans cette suite, alors raconte-nous comment on va évoluer un petit peu justement tout ça.
La série, elle est quand même vachement articulée autour d'un secret que porte déjà le personnage d'Alex dans le pilote autour de son frère, de la mort de son frère supposé. On va découvrir donc que son frère n'est pas mort et à partir de là, je ne veux pas spoiler, mais donc il y a toute une enquête pour comment reprendre contact avec son frère et c'est ce secret qui va en fait un peu
déteindre
dans le groupe parce qu'il va y avoir des secrets entre les gens de la bande à certains moments. Moi, comme je suis quelqu'un de mon personnage est un personnage très droit, qui veut rien faire en dehors de la procédure, qui est très très carré, qui prend son métier très à cœur, elle veut absolument pas s'investir dans quelque chose qui pourrait être dangereux pour la brigade. Et donc, à un moment, on lui cache, et ensuite après, elle se rallie. Et ensuite, donc en fait, il y a que des histoires de. C'est Alex qui tire un peu les ficelles autour de cette problématique de son frère qui veut à tout prix retrouver. Donc ça va être vraiment le pivot central. Et à partir de là, évidemment, c'est des histoires humaines. C'est les personnages sont plus ou moins blessés d'être mis de côté ou plus ou moins flattés d'être dans la confidence avec Alex. Et donc c'est tout autour de, on va dire, les sentiments humains vont en arborescence autour de ce secret-là qui va articuler la série, évidemment, en plus de chaque épisode est un meurtre, chaque épisode est une enquête.
Évidemment.
C'est bouclé, voilà.
Justement, Joséphine, qu'est-ce qui t'a plu dans le rôle de Lisa?
En fait, déjà, ce que j'aime, c'est dans les rôles de, j'ai déjà joué des rôles de flics, police municipale, notamment dans Darknet sur mer, sur Amazon, mais pas que. Et ce que j'aime, c'est les personnages qui sont vachement sur le terrain, les personnages dans le corps, que pour moi, comme je fais quand même beaucoup de comédies principalement, c'est surtout des situations avec des dialogues savoureux, mais là, ce que j'aime dans le personnage de Lisa, c'est qu'elle est très ancrée, et c'est une femme de terrain, c'est une femme qui est dédiée à son métier, qui est très entière, et du coup, j'ai aimé, être vraiment dans le côté de course-poursuite, attraper le méchant, résoudre une enquête, il y a quelque chose de très concret que j'ai aimé aborder dans ce rôle. Et aussi, ce que j'aime, c'est le fait que ce soit une bande, parce que j'ai toujours aimé les projets chorales, que ce soit Planqueur, ou j'adore les séries de bandes. Je trouve que c'est la grande force de la série, c'est cette bande. C'est ce qui m'a aussi beaucoup attiré dans le projet. C'est que je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien avec toutes leurs différences, et en même temps, on comprend pourquoi ils s'aiment et pourquoi ils se tolèrent comme une famille. Et vraiment, ce truc-là que j'aime beaucoup jouer dans les films et les séries.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez chez toi, justement. C'est souvent, t'es très, très bien entouré. L'année dernière, on t'avait reçu pour le film Avec ou sans enfants d'Elsa Blayo, pour le coup. Film de bande, quoi. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui compte quand tu dis oui à un rôle.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Avec ou sans enfants est diffusé, arrive sur Netflix le 29 mai aussi. Le jour de l'arrivée
vendredi.
De saison sur France 2. Donc, on pourra aussi voir enfin ce film qui est très chouette si vous n'avez pas vu en salle Avec son enfant. Donc, je précise, c'est le même jour.
Mais une tuerie, ce film. Moi je vous conseille vraiment. Oui, c'est vrai. On a beaucoup ri.
C'est sur Netflix. Mais du coup, oui, pour moi, c'est vrai que ça fait partie des choses qui vont tout de suite me séduire dans un projet. Du côté bande, j'adore. Ça veut d'ailleurs bien dire qu'en général, c'est pas le fait d'être moins mis en avant qui va plutôt me séduire. C'est plutôt le fait d'être de composer un tableau avec d'autres artistes, parce que j'adore aussi, c'est les films que j'aime regarder, et je pense que quand on tourne un film ou un projet, moi je me mets tout de suite à la place du spectateur, je me dis, est-ce que j'aurais envie d'aller le voir? Et comme j'adore les films de bande, évidemment que c'est normal que j'aime les tourner.
Il faut dire que t'es bien entouré quand même dans la série Haute Saison, entre Jean-François Quéré, qui est irrésistible, Cécile Rébois,
oui,
Paul Scarfoglio, Antoine Duléry. Il y a du beau monde, quand même.
Oui, parce que c'est des fortes personnalités, mais en même temps, elles savent se mettre au service, justement, du groupe, parce que c'est ça, les problèmes, parfois, qu'il peut y avoir dans les bandes, c'est que chacun veuille, parfois, tirer la couverture pour briller plus que les autres. Et c'est pas du tout le cas dans cette bande. Chacun brille, mais tout en laissant la place à l'autre, et c'est pour ça que ça donne une dynamique et un relief hyper chouette, parce que chacun a une forte partition, Antoine Duléry, un juge un peu coriace, Cécile Rébois qui est toujours à gueuler, mais qui a énormément d'affection en elle. Donc en fait, chacun a vraiment des choses à défendre très fortes, mais savent s'adapter au groupe. Et ça, c'est vraiment, vraiment jouissif à regarder, je pense.
J'avoue que vous nous mettez des paysages de la Côte Basque absolument magnifiques aussi. Quel plaisir de regarder tous les paysages dans lesquels vous tournez, quoi.
Ouais, c'est magnifique. C'est vrai que d'ailleurs, c'est une région qui est à l'écran trop peu montrée, et c'est pour ça que c'est une des forces aussi de la série, c'est que ça montre des endroits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en fiction, et ça c'est chouette parce que ça donne des c'est frais, quoi. Et c'est aussi ce qui rend la série fraîche.
Alors c'est vrai que à l'époque où France Télévisions essayait plutôt de faire des économies, c'est plutôt une bonne nouvelle de se voir signer pour 6 épisodes d'un coup. Et c'est vrai que la série s'y prête bien en plus, le format. Là.
Oui, c'est ça. En plus, c'est vrai que le côté, alors c'est une volonté de la chaîne, hein, de mettre en avant cette région aussi, et ça, ils ont raison, je trouve, parce que ça donne une diversité. C'est pas parce qu'ils veulent faire des économies, ils ont bien raison d'essayer d'en faire, que justement, il faut appauvrir la diversité du résultat, la diversité du paysage de ce qu'ils proposent, en fait. Donc, du coup, je trouve qu'encore plus, cette série a cette place lors d'économies, parce que c'est une série qui fait la différence, à mon avis, avec toutes les autres, parce qu'elle est plus sur un principe de bande, parce qu'elle met de la comédie aussi en plus des enquêtes, parce qu'elle montre une région qui est trop peu filmée, et du coup, dans le paysage global de tout ce que va conserver France Télé à la carte, je pense qu'elle a encore plus sa place lors de coupes, parce qu'elle est différente et moderne, et que ça change, justement.
Et puis une autre raison aussi, c'est que le pilote était bien trop court et que c'est vachement bien de vous tous vous revoir comme ça pour 3 soirées.
C'est vrai qu'on on avait tout mis dans 90 minutes, donc là c'est cool de pouvoir aussi prendre le temps sur 3 soirées, donc c'est vraiment trop chouette de pouvoir, c'est ça qui est génial dans les séries, c'est de pouvoir prendre le temps aussi de s'attacher, de développer les personnages, les émotions, les conflits, et c'est ça qui est cool.
Prête à y retourner pour une nouvelle saison?
On serait trop contents d'y retourner tous, parce qu'on a très hâte, pareil, de retrouver cette bande. On serait très partants d'y retourner, ouais, complètement. J'espère que le public sera au rendez-vous pour pouvoir faire ça dès très prochainement, parce que de toute façon, on est obligé d'en être dépendant de la vraie saison.
Bah oui, c'est ça, faut attendre septembre.
Festival, on peut pas tourner pendant la saison, donc voilà.
Bon, on attend avec impatience. Autre saison débarque vendredi soir sur France 2 à 21h10. L'intégralité de la saison est déjà sur France.tv. Vous l'avez compris, Joséphine nous l'a annoncé. Ça sera la mise en ligne de Avec ou Sans Enfants. Ça sera aussi vendredi sur Netflix, un film des paysans. Vous allez voir. Si vous avez envie des fois de vous débarrasser de vos enfants, vous allez voir que c'est pas si facile que ça, surtout quand c'est ceux de vos amis. Voilà, vous allez voir. Alors, t'avais une série aussi que tu nous avais présentée l'année dernière, une petite série courte. Que toi, vraiment.
Ah oui, ma série, bien sûr.
Alors, comment ça évolue? Est-ce qu'il va y avoir des suites? Qu'est-ce que ça donne?
Alors là, pour le coup, malheureusement, on est pour l'instant encore dépendant du fait que là, pour le coup, il n'y a pas de budget fiction, vraiment la coulisse qui a été décidée pour la chaîne TVA cette année. Donc, on n'a pas pu faire de saison 2 cette année. C'est vraiment pas du tout un choix artistique, c'est vraiment un choix extrêmement financier.
Et
je pense qu'il y a quand même un petit climat global où on est plus vers des coupes que vers des conventions. Donc, on en a fait les frais de manière collatérale. Donc, il n'y aura pas de saison 2 pour cette année. En revanche, ça s'est super bien passé et avec la chaîne et en plus avec le retour public. On discute de manière informelle à ce que dès qu'il y a un budget fiction réapparaîtrait pour le cahier des charges, on ferait une saison 2. Mais donc, on reste un peu pendu aux nouvelles des nouveaux. Voilà, ce ne sera pas en 2027, ça c'est sûr.
Joséphine, merci d'avoir été avec nous. Tu travailles sur quoi en ce moment? Raconte-nous.
Eh ben, écoute, j'ai plusieurs projets en cours, mais du coup, je ne peux pas exactement encore les dire. C'est un peu confidentiel. À part, le seul truc que je peux te dire, c'est que je pars tourner à La Réunion 2 épisodes de la série OPJ.
Oh, génial. Saison 8, si je me trompe pas. On va voir la saison 7 qui va arriver très vite sur France 3, effectivement.
C'est ça. Donc, du coup, saison 8,
Eh ben, écoute, ça va être encore des paysages compliqués pour toi, je le sais.
Ouais, grave, je vais profiter.
Merci beaucoup, à très vite. Merci Joséphine.
À bientôt.
Et on se quitte avec la bande-annonce.
Inédit sur France Télévisions. Bienvenue sur la Côte Basque. Son ciel azur, ses vagues légendaires, ses plages immenses et ses crimes. Haute saison, votre nouvelle série sur France.tv.
Notre coup de cœur télé consacré à Crime à Cluny qui sera diffusé samedi à 21h10 sur France 3 aux commandes de cet épisode de cette collection. Céline Guéras qui est avec nous. Bonjour Céline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Sandra Dorsay est également avec nous. Bonjour Sandra.
Bonjour à tous.
Nouvel épisode de ce crime à Cluny. Alors on se trouve, pour ceux qui veulent le situer déjà en France, environ au nord-ouest de Mâcon, si je me trompe pas.
Tout à fait, en Bourgogne, exactement.
Donc déjà, on est pas mal. Et on va y retrouver un meurtre qui va être commis dans l'abbaye de Cluny, la célèbre abbaye de Cluny. Et l'enquête va être confiée à Louise Vaillant du SRPJ de Lyon qui doit collaborer avec Karine Roy. Mais tout va se corser puisque Karine est la mère de Louise. On va y recevoir dans un instant pour en parler. Mais en tout cas, Sandra, elle, va être la mère de la victime. Et c'est ce qu'on va découvrir en tout cas dans le film très très vite, dès le début. Céline, première question. Bah, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a fait y aller et donner envie de le réaliser?
Alors, moi, j'aimais beaucoup cette relation mère-fille qui existe aussi bien dans l'enquête et surtout dans le perso, puisqu'en fait, les deux sont liés. À travers cette enquête, en fait, va se révéler un secret entre la mère et la fille. Et je trouvais que c'était extrêmement... voilà, il y avait une sensibilité que j'aimais beaucoup. Et surtout, je trouvais que c'était très haut en couleur. Voilà, on passe aussi bien par de la comédie que de l'émotion. Je trouvais que les personnages étaient vraiment identifiés. Je trouvais ça très palpitant, quelque part. Voilà.
Et donc Sandra, Valérie est la maman de Théo qui est le premier suspect dans cette histoire de crime.
Oui, exactement. Donc je débarque au commissariat en panique, mais que fais-tu là mon fils? Et après je peux pas trop en dire parce qu'il y a une deuxième histoire dans l'histoire qui tourne autour d'une intrigue de mère, de femme.
Oui, parce que la seule chose qui pèse sur Théo pour l'instant, c'est le vol de l'ordinateur. Et on va découvrir évidemment tout ça, si c'est lié ou pas effectivement à ce crime.
En fait, ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a un vrai parallèle entre ce que vont vivre en fait Karine et Louise, donc interprétées par Sonia et Marie, de cette relation de cette maternité en fait, et je n'en dirai pas plus, voilà, avec l'histoire, l'enquête en fait. Il y a un vrai sujet de maternité en fait dans ce crime à Cluny, voilà.
Est-ce que vous connaissez Cluny déjà? Toutes les deux. Parce qu'on sait que les climats font toujours à part belle, évidemment, aux polars régionaux. C'est souvent des régions de cœur pour ceux qui écrivent ou ceux qui réalisent généralement l'histoire. Est-ce que, par exemple, Céline, c'est votre cas?
Alors, par rapport à Cluny, je dirais que c'est plutôt Sonia, puisque c'est elle qui a cet endroit lui tient à cœur, puisque c'est là où elle a grandi, en fait, une partie de son enfance. Sa maman vit toujours à Cluny. Donc, pour elle, c'était un peu un retour aux sources. Donc, je sais qu'elle est très attachée à Cluny. Voilà, et moi j'étais encore plus fière de pouvoir justement représenter ce lieu qui lui est cher en fait.
Ben oui, c'est clair. Sandra, mais c'est Cluny ou pas?
Pas du tout, et j'ai découvert cette ville absolument sublime, et puis à travers les yeux de Sonia aussi, qui est la star de cette ville. Les gens sont absolument adorables, chaleureux, et donc c'était, j'avais l'impression de faire partie un peu de la vie de Sonia via ce film, et donc c'était vraiment formidable, et c'est vraiment une très belle ville. Je conseille à tout le monde d'aller la visiter, quoi.
Bon, est-ce qu'il y a une scène particulière qui restera marquée, Céline? Alors que derrière la caméra, pour le réalisateur, souvent, je demande.
Alors moi, j'en ai deux. J'en ai une qui est entre Valérie et Karine, mais je ne peux malheureusement pas dévoiler cette
scène. Entre Sandra et Sonia.
Oui, pardon, entre Sandra et Sonia, pardon. Mais je ne pourrais pas la raconter, puisqu'en fait, voilà, sinon je spoil l'histoire.
Une scène de confrontation, en gros?
Une scène d'émotion.
D'émotion, ok.
Et de confrontation. Et j'en ai une autre aussi qui est entre Marie et Sonia. Très très belle séquence aussi, très 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 touchante. Voilà, c'est mes deux.
Quand elle s'arrête sur la route, je mets sur la voie ou pas?
Non.
Il y en a une qui met un coup de frein et que toutes les deux, il y a une explication musclée entre les deux.
Je dirais juste un truc, je parle d'un camion, j'irai pas plus loin.
Et ben voilà, quand vous verrez, en tout cas, vous verrez de quoi on parle. On va accueillir d'ailleurs Marie Fèvre Sherman et on va continuer à en parler. Juste avant, Sandra, aussi, est-ce qu'il y a un meilleur souvenir à nous raconter, peut-être, de tournage?
Ben moi, c'est Sonia qui m'a sauvé la mise plusieurs fois parce que, je sais pas si les auditeurs le savent, mais souvent, on doit se placer sur des marques au sol pour que le caméraman, le réalisateur, enfin, le steadicammer, voilà, puisse se placer, qu'on soit bien filmé, qu'on fasse bien le point. Donc, on doit s'arrêter sur des petits scotchs de couleur. Et moi, évidemment, dans l'émotion, je perds un peu la tête. Donc, je vois pas les marques au sol. Et heureusement que Sonia me disait, ta marque au sol, et hop. Donc, du coup, c'était la gardienne de mes marques au sol. Donc, merci Sonia. Et après cette scène aussi, je partage la scène de révélation émotion dans la cuisine, c'est tout ce que je peux dire, avec Sonia.
Bon, très bien. Sandra, est-ce qu'on va avoir l'occasion aussi de vous revoir? On vous a revu il y a quelques mois, quelques semaines, puisque vous jouez aussi la mère adoptive de Carla.
Absolument.
Donc ici tout commence.
Ici tout commence, donc pour l'instant toutes ces arches sont terminées et puis je vais tourner de nouveau avec Céline Guéras dans Simon Coleman. Je vais jouer une nonne, voilà.
Michel Tinivelli.
Voilà, et je suis toujours au théâtre du Palais Royal dans Edmond, une pièce d'Alexis Michalik en alternance à Paris.
Bon, plein de belles choses, on va écouter un petit extrait de Crime à Cluny, on revient dans quelques instants avec Marie. Surtout, reste avec nous, à tout de suite.
Salut Gérard.
T'as un meurtre ici, c'est le bordel assuré. Hein.
Ouais.
Dis-moi ce que tu sais.
Bah, il a été poignardé dans l'atelier machine-outil. Il a quand même réussi à marcher jusqu'au cloître, sûrement pour chercher de l'aide. C'est un prof qui a découvert le corps vers 10h15. Il était passé 20 minutes avant, et personne, il n'y avait rien.
Donc il est mort vers 10h. On a retrouvé son portable ?
Non. Le meurtrier a dû le prendre. J'ai demandé les fadettes. Et à propos de bordel...
Mais c'est Lionel Fortier. Merde.
Tu le connaissais ?
Bah un peu, ouais. Enfin, surtout sa sœur, j'étais au lycée avec elle. Je croyais qu'il avait quitté la région depuis longtemps.
Oui, il bossait à Toulouse, il était là pour le défilé.
Allez, on continue notre spécial crime à Cluny, et c'est Marie-Fèvre Sherman qui nous rejoint maintenant. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on le disait il y a quelques instants, on a planté le décor justement avec Céline Guéraz et puis Sandra. Évidemment, tu joues le rôle de Louise Vaillant, la CRPJ de Lyon, qui va devoir enquêter avec sa mère. Et sa mère qui va être sous les ordres de Louise. Ça va pas faciliter les choses, ça?
Oh non. Parce qu'il y a le personnel qui se lie avec le professionnel et du coup ça devient tout de suite compliqué. Surtout qu'on a un moment où on a une histoire très conflictuelle, sans raconter trop pourquoi. Et ça va entacher sur toute l'intrigue pro qu'on mène.
Oui, parce qu'il va y avoir une révélation à un moment donné qui va mettre le feu aux poudres entre la mère et la fille.
Exactement.
Sans trop en dire.
Sans trop en dire, on peut pas. On n'a pas le droit.
Bon, qu'est-ce qui t'a plu en tout cas dans le rôle ?
Oula, bah tout. Moi j'étais trop heureuse de passer les essais d'abord, puisque on m'a appelé, on m'a proposé ça. C'est la première fois que je participais à un unitaire et à un film policier. Moi pour l'instant je jouais que des rôles de jeunes, donc de filles de 16, 17, 18 ans. Et là c'était un rôle de mon âge, une fille de 25 ans. Forte, rigide, froide, ferme, sûre d'elle. Et c'était trop chouette. Donc qu'est-ce qui m'a plu dans le rôle ? Déjà le personnage, je le trouve hyper attachant, il y a plein de choses à faire. Il se passe plein de choses en elle, il est hyper construit le personnage, c'est hyper bien écrit. Donc voilà, c'est trop chouette.
Bon. Et puis maître Sonia Roland aux arrêts, franchement, au diapason.
Non mais
bah ouais carrément.
Non mais la rencontrer en plus, enfin on a une relation dans la vraie vie en plus très particulière qui s'est construite, un peu de mère-fille. Enfin moi je la considère comme ma maman, je l'appelle Mamounette dans la vraie vie. Et on a construit un vrai truc beau qui j'espère se voit aussi à l'image quoi.
Alors c'est vrai que vous allez devoir collaborer avec en plus cette révélation qui est faite en plein cœur de l'enquête, ce qui va pas faciliter les choses. Il va y avoir évidemment autant de suspects que possible et autant où on va croire évidemment que c'est le bon alors que ça sera pas le bon. Et c'est vrai que voilà, la collection Crime, t'avais déjà regardé quelques épisodes pour voir un peu la structure, comment c'était fait ?
Bah en fait justement c'est que apparemment c'est, on n'est pas sur une collection, là on est vraiment sur un nouveau projet. C'est, ça prend le même suivi de ce que j'ai compris, des meurtres, tout ça, mais c'est pas la même chose en fait. Donc c'est une vraie création, donc évidemment il y a des similitudes, mais je trouve qu'elle a quand même un truc très particulier. C'est unitaire, il a une histoire, il a des thématiques qu'il aborde, il a une manière, je sais pas, d'être entrepris, d'être raconté, qui je trouve se différencie de beaucoup de choses que j'avais vues pour l'instant à la télé.
Bon, il y a des scènes fortes entre toi et Sonia, ouais. Mine de rien.
Ah oui. C'était trop beau à jouer. C'était pas juste un film policier où on suit une intrigue et tout. Il y a vraiment des choses à jouer. Il y a
le côté personnel aussi,
ouais,
du coup.
Exactement, qui se mélange pendant tout le film. Ouais, moi j'avais une trop belle partition. C'était, ça me faisait peur par contre au début. J'étais hyper stressée parce que c'est la première fois que j'avais un rôle aussi important en fait. Donc ouais.
Bah oui, premier rôle là pour le coup avec Sonia ensemble en duo.
Premier tout en vrai, pour l'instant j'avais fait deux séries et là du coup c'est mon premier unitaire avec Sonia, franchement que demander de plus, c'était trop chouette. C'est quand même quelqu'un qui a une générosité dans le jeu et dans la vraie vie qui est folle.
C'est vrai que d'avoir fait Un si grand soleil et Tout pour la lumière, est-ce que c'est des choses qui t'ont permis d'apprendre, d'être plus efficace, d'être plus instinctive?
Bah c'est-à-dire que c'est ma formation en fait, c'est comme ça que j'ai appris. Moi j'ai commencé par hasard, Un si grand soleil c'est arrivé comme ça, dans un beau jour c'est arrivé, je me suis fait caster par hasard. Donc j'ai tout appris et donc oui, ça m'a appris évidemment, vu que c'était les deux sont des quotidiennes, la première une quotidienne très connue, la deuxième une création mais comédie musicale, il y a un rythme à suivre, il y a une efficacité, il y a une mémoire dans l'apprentissage des textes et de concentration. Moi qui suis un peu hyperactive sur les bords, qui ai du mal à me concentrer, je sens que ça m'aide d'avoir commencé par là en fait.
Mais oui, comme quoi c'est une belle école, mine de rien. Puis je suis sûr que t'en gardes plein de bons souvenirs parce que bon, c'est plein de copains aussi hein, dans la vie.
Bah les deux, que ce soit Un si grand soleil ou Tout pour la lumière, j'ai construit des relations avec des gens, techniciens, acteurs, prod très précieuses et que j'ai encore aujourd'hui et que j'aurai toujours, je pense. C'est ma maison en fait.
Quel est le meilleur souvenir que tu garderas de ce tournage de Crime à Cluny ? À part l'abbaye de Cluny.
Non mais déjà c'est vrai parce que c'est ce que je pensais en premier, la région est folle, moi je connaissais pas du tout Cluny, c'est trop beau. Tout est pour l'instant pour moi un peu de la découverte et là il y avait vraiment cette découverte de travail avec des femmes. C'est quand même Céline qui porte tout le film puisqu'elle est réalisatrice et son premier unitaire. Il y avait quelque chose d'extrêmement frais et de touchant parce qu'on voyait qu'on était tous, toutes très impliquées dans ce qu'on faisait. Et donc ouais, c'est une globalité, j'aurais pas de moment précis, il y a des scènes qui ont été particulièrement marquantes, une région, les gens.
Moi je trouve que la scène de révélation était très forte quand vous êtes en voiture toutes les deux et que, comme c'est une voiture d'auto-école, t'as pu arrêter toi-même la voiture en tant que passagère. Et là, il y a une scène, et on t'a même pas permis en plus. Et t'as une scène de, vous avez une scène de révélation qui est hyper touchante, toutes les deux, où, là t'envoies du steak quand même, hein.
Ouais, bah c'était la scène de casting d'ailleurs. Donc ouais, mais j'avais très peur de cette scène, j'étais très stressée. Surtout qu'en plus j'apprenais, c'est ça aussi la grande découverte, c'est que moi pour l'instant j'étais dans des quotidiennes, donc on va très vite. Et là j'apprenais que dans des unitaires on a beaucoup plus le temps. Donc c'était question d'adaptation, on a tourné cette séquence le deuxième jour de tournage. Donc moi c'était vertigineux et c'était trop beau. Et je suis contente du résultat.
Ça t'a mis dans le bain tout de suite.
Ouais, exactement.
Bon. Les projets, on sait que tout pourra lumière vers la saison 2 pour l'instant. Est-ce que si un jour on te rappelait la production d'un si grand soleil pour une intrigue un peu événement, pour un retour événement sur un mois, deux mois, la porte est pas fermée?
Mais en fait, moi je suis ouverte à tout. Moi je suis jeune, je découvre ce métier qui me passionne. Donc moi je suis un petit personnage qui a envie de tout faire en fait. Donc bien sûr, évidemment, moi je suis ouverte.
C'est génial d'avoir cette soif.
Bah grave, bah c'est normal, c'est un métier hallucinant, c'est à mes yeux un des plus beaux métiers du monde et je suis trop heureuse de faire partie, hein. Rien qu'un peu déjà mettre ma petite pierre à l'édifice dans ce milieu que je découvre, je trouve ça trop beau. Et puis je fais d'autres choses à côté, donc là je fais de la musique beaucoup. Je peux pas trop parler de tout ce que je fais, mais en tout cas voilà, Tout pour la lumière m'a fait faire beaucoup de musique seule, là du coup je me mets à faire plein de projets seule en indépendante, voilà. Puis les projets d'acting, je peux pas trop en parler pour l'instant, mais ouais, il va y avoir des choses
tournées qui vont être diffusées, non, que ça tu peux nous dire?
Pas encore, mais par contre il y a des projets qui vont arriver, ouais.
Ça va tomber là avec Rémi Cluny, hein.
Ah bah je sais pas, j'espère, écoutez, hein.
Bon, merci Marie en tout cas d'avoir été avec nous. On te retrouve donc samedi à 21h10 sur France 3 pour ce nouvel opus, cette fiction unitaire Crime à Cluny aux côtés de Sonia Roland. Et il y a tout plein de super comédiens autour, vous allez voir, c'est dingue. Voilà, avec des beaux décors en plus. Merci beaucoup.
Bah merci à vous.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Y'a quoi pour que tu ne sois plus la même? Y'a quoi dans tes yeux quand tu dis que tu m'aimes? Y'a quoi dans ta tête si ce n'est les problèmes? Pourquoi ton cœur part quand le mien te rappelle? Y'a quoi dans tes silences quand la nuit tombe? Y'a quoi dans mon rêve qui s'effondre? Y'a quoi entre nous de l'amour ou de la haine? Pourquoi on s'accroche si c'est la même peine? Dis-moi où on s'est perdu, à quel moment t'as changé? On avait tout prévu, mais tout s'est effacé. Et moi je reste là, à chercher dans tes bras une réponse à tout ça. Y'a quoi, dis-moi tout, dis-moi pourquoi. Y'a quoi sans moi, sans nous, sans toi. Y'a quoi dans ton cœur quand tu me vois? Est-ce qu'il reste encore un peu de toi pour moi? Y'a quoi, dis-moi tout, dis-moi pourquoi. Y'a quoi sans moi, sans nous, sans toi. Y'a quoi dans tes mots quand tu dis ça va? Y'a quoi dans tes yeux quand tu ne regardes pas? Y'a quoi dans ton cœur quand tu t'éloignes de moi? Tu m'aimes encore ou tu ne sais pas? Y'a quoi dans nos nuits quand on ne parle plus? Y'a quoi dans l'amour quand il devient perdu? Y'a quoi entre nous, une guerre ou un miracle? Deux cœurs qui se fuient ou deux âmes qui s'attachent? Dis-moi où on s'est perdu? Pourquoi tout est si froid? On avait tant voulu, mais t'es plus là pour moi. Et moi je reste là, à chercher dans tes bras une réponse à tout ça.
Dis-moi ce qu'il restera de nous deux dans le noir. Un peu de toi ou rien pour moi. Y'a quoi? Dis-moi tout. Dis-moi pourquoi. Y'a quoi sans moi? Sans nous, sans toi. Y'a quoi dans ton cœur quand tu me vois? Est-ce qu'il reste encore un peu de toi pour moi? Y'a quoi? Dis-moi tout. Dis-moi pourquoi. Y'a quoi sans moi? Sans nous, sans toi. Et moi je reste là. Et moi je reste là.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma aujourd'hui s'appelle Tout va super. C'est le tout nouveau film de Patrick Cassir qu'on retrouve aujourd'hui dans notre émission après premières vacances et quelques années. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a pu voir le film en avant-première au Festival de Alpes d'Huez il y a quelques mois maintenant. Et on a été autant ému qu'on a ri dans ce film. C'est un ascenseur émotionnel comme rarement il en est donné au cinéma. Et que ça fait du bien de voir des films comme ça.
Merci beaucoup. Super. Bah, écoute.
Surtout que c'est un film très personnel en plus, Patrick.
Oui, c'est parti de l'envie de raconter l'urgence amoureuse et l'urgence quand t'as quelqu'un autour de toi qui est malade. Voilà. Donc c'est une situation d'urgence.
C'est un peu inspiré de ta maman, c'est ça?
Oui, c'est un film qui est dédié à tous les gens qui accompagnent des gens dans la maladie et tout, et un peu, voilà, c'est des figures qu'on voit moins souvent. Et voilà, et toute cette folie d'accompagnement, de médecins, de chimio, de rendez-vous, de stress et tout, c'est là-dessus que je voulais écrire.
Alors, tu disais sur scène, je me rappelle lors de l'avant-première, que tu avais ressenti une urgence à écrire.
Tout à fait, en fait j'étais parti sur d'autres choses. Et à un moment donné, j'avais écrit une scène de comédie et à la fin de la scène, j'avais écrit « Ma mère est malade ». Et sans m'en rendre compte, des gens autour de moi bienveillants qui m'ont dit « Mais t'es sûr qu'en fait c'est pas ça le sujet et que tu l'oses pas ?» Et j'osais pas. Et puis à un moment donné, voilà, c'était une évidence quoi.
Alors on raconte le parcours de Sylvaine qui depuis 5 ans se bat contre un cancer, qui apprend une bonne nouvelle à quelques heures de la nouvelle année, que son cancer est en rémission en compagnie de son fils. Mais voilà, patatras, son fils fait une belle rencontre ce soir-là, justement avec le personnage joué par Marie Colombe, c'est Anaïs. Ils vont très vite tomber amoureux, mais malheureusement la maladie va revenir entre les deux pour mettre un peu une distance entre ces deux personnages pour que le personnage d'Hakim s'occupe de sa mère et de Sylvaine. C'est vrai que le film nous embarque dans un sujet fort, grave, et à la fois avec cette légèreté que Hakim a su apporter au personnage.
Oui, tout à fait. Moi, j'adore tirer le quotidien vers la comédie. Je cite souvent Judd Apatow, mais pas tant pour son humour over the top et tout, mais plutôt pour le fait qu'il nous a autorisé à le faire. Se dire, en fait, tout peut être comédie, si tant est que t'as envie de le faire. Et si ton rapport au monde, c'est de faire des blagues et de dédramatiser, moi je voulais faire ça. Je voulais dédramatiser un sujet qui m'arrivait et d'en faire des blagues, quoi.
Il y a Camille Chameau qui fait le rôle justement de la médecin. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies en fait, hein, qui sont vraiment, je sens fortement inspiré. Quand il y a ce médecin, on a toujours l'impression qu'il nous annonce des mauvaises nouvelles finalement, même quand c'est une bonne par exemple.
Tout à fait. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on n'ose jamais statuer dans la maladie. On n'ose jamais dire, c'est un peu la merde, c'est vraiment... En fait, on faudrait qu'on dise ça, c'est un peu la merde, c'est vraiment la merde et tout, on n'ose jamais. Et ce qui est normal, c'est un aspect scientifique des choses, de parler comme ça des choses. Mais donc parfois, en tant qu'on n'ose pas trop demander, donc parfois on reste comme ça dans des moments d'incohérence, de dire attends, est-ce que j'ai bien compris, est-ce qu'elle a compris, t'as compris ça, j'ai pas compris ça. Et ça, c'est vraiment du vécu pour tous les gens qui ont été face à des médecins parfois dans leur vie, quoi.
Les comédiens, tes personnages se sont imposés. Noémie Loski, ça a été difficile de la convaincre. Comment Noémie est venue?
Noémie, elle est venue d'une admiration totale. C'est-à-dire que moi, Noémie, c'est une femme que j'ai toujours admirée en tant qu'artiste, pour ses films, pour ses qualités d'interprète. Et à Noémie, elle a quelque chose qui est vertigineux, c'est qu'on sait jamais ce qui se passe dans le regard. Et donc, je trouve que c'était pas mal en lien avec les personnages qui sont malades, c'est qu'on sait jamais ce qui se passe dans leur regard, en fait. Et donc, il y a une forme de mystère autour de la maladie et une forme de mystère autour de Noémie. Et puis, elle a ce côté qu'on a un petit peu en commun, de toujours rire de tout, en fait. Noémie, elle est capable d'être des moments très dark et puis de faire une blague juste à côté. Et moi, ça, j'adore, quoi. Donc, voilà.
Les personnages de Marie Colombe, tu l'avais peut-être repéré dans les séries de Louis Farge ou de Jean-Xavier de Lestrade?
En fait, j'avais commencé très vite, j'avais envie de travailler avec Marie parce que elle a une puissance phénoménale à la caméra et dans son jeu, elle a une intensité de tous les moments.
Et dans le regard, dans tout, et Marie, elle fait passer des émotions incroyables.
J'aime bien les gens qui sont issus de la comédie, pouvoir un petit peu les surprendre avec des gens qui jouent pas du tout comme eux. et qui vont pas être en compète de comédie. Et Marie, elle a un vocabulaire, une grammaire de jeu qui est très différente de celle d'Hakim. Et moi, c'est ça que j'adore dans les films, c'est avoir des rencontres un petit peu différentes.
Et Hakim s'est imposé tout de suite?
Ouais, Hakim s'est imposé tout de suite parce que Hakim, je trouve beau.
Il est fort, ouais, mais il est tellement fort.
En fait, il a une sincérité qui me touche très vite, quoi. Et en fait, il accepte le premier degré. Ce qui est pas évident pour les comédiens, c'est accepter de faire des... Les comédiens ont toujours envie de faire rire. Et là, Hakim, il était d'accord pour pas tout le temps faire rire et dire, en fait, je vais me laisser un peu traverser par des émotions. Et ça, c'est super.
T'étais tourné une partie au Liban? Du coup?
Non, on pouvait pas. On a essayé, mais très vite, on nous a dit, bon, les assurances ont pas tellement envie. Donc, on a tourné en Grèce, et moi, comme je suis gréco-libanais, je connais très bien les deux. Et je sais qu'au niveau de l'urbanisme, ça se ressemble pas mal, Beyrouth et Athènes, donc je pouvais un petit peu, faire les deux.
Il y a des scènes que tu redoutais, un petit peu, à l'écriture, à la mise en scène. Est-ce que il y a eu, peut-être des difficultés ou des scènes qui ont dépassé ce que tu attendais peut-être?
Les scènes de fin où la maladie s'accélère. On n'a pas envie de tomber dans le pathos. En même temps, on a envie d'être précis. Donc, je pense que j'étais un robot.
Donc j'étais trouver l'équilibre.
Voilà, faut trouver l'équilibre. Et j'étais un robot pour ne pas vivre ce que je tournais, essayer d'être le plus technique possible et d'être simple, technique et d'aller assez vite, de pas en faire plein. Et donc ça, c'est les scènes que je redoutais. Mais encore une fois, t'as des comédiens bons, donc ça facilite le travail quand même, quoi.
C'est difficile, hein, de rester sur ce fil permanent de la comédie, du drame, d'arriver à faire rire sans trop, d'arriver à faire pleurer sans tomber dans le pathos. C'est très très compliqué, franchement.
Le montage pour ça a été très difficile parce que des moments j'ai fait des versions qui étaient beaucoup plus drôles, des moments j'ai fait des versions qui étaient beaucoup plus mélancoliques. Ça dépendait vraiment de comment je me levais le matin, et c'est vraiment un film qui était entre les deux. Et donc oui, c'est le montage a pris beaucoup de temps pour ça, c'est vrai.
Patrick, la suite pour toi. Là, le film va appartenir au public d'ici deux jours maintenant. Est-ce que t'as déjà autre chose dans les tuyaux? Est-ce que t'as une série du cinéma?
J'ai deux projets de série. J'ai pris les droits d'une BD qui s'appelle Marcy, qui est sur l'invisibilité des femmes de 50 ans, mais très drôle et avec une enquête. Et je vais en faire une mini-série. Et je prolonge une série que j'écris sur l'univers des rallyes. Des soirées mondaines comment vit ce microcosme de reproduction et tout ça.
Bon, plein de belles choses en tout cas. Merci beaucoup Patrick, on va continuer à en parler. Ça s'appelle Tout va super, c'est le film à ne pas rater de cette fin mai à découvrir au cinéma. On va recevoir Marie Colombe justement et Noémie Lovski dans quelques instants. On te dit à bientôt et puis on croise les doigts évidemment. Mercredi, allez tous au cinéma voir Tout va super. Bande annonce.
Ça.
Merci madame.
De rien.
Merci beaucoup. Madame, pardon, je voulais juste vous demander.
Ouais.
Si par hasard.
Tu veux mon numéro, c'est ça?
J'allais vous demander des pareils.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors dites-moi, on va où les amoureux là?
Moi, on va chez toi?
Non, chez moi, c'est pas possible. On va chez toi, sinon?
Je vis avec ma mère.
Ah putain.
Quoi?
Donc sur 200 mecs dans une boîte, je tombe sur le seul mec qui vit chez sa mère.
Bingo.
Ouais, t'es fauché, quoi.
Non.
Si, si, si. Vous voulez venir à la maison?
Pardon.
Allez, on continue notre spécial Tout va super avec notre casting 100% féminin qui est avec nous aujourd'hui. Marie Colombe qui joue le rôle d'Anaïs. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et Noémie Lovski qu'on a plaisir à retrouver aussi, qui joue le rôle de Sylvaine justement, qui nous a beaucoup ému en voyant ce film. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous toutes les deux. Noémie, j'ai déjà envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a fait y aller sur ce film? Qu'est-ce qui vous a plu en premier?
En premier, c'est la rencontre avec le réalisateur, avec Patrick Cassir. Et quand je rencontre un réalisateur ou une réalisatrice, comme il s'agit, je crois, avant tout, quand on joue dans un film, d'entrer dans le monde du cinéaste ou de la cinéaste. Je l'ai beaucoup regardé, écouté, et je me suis dit, son film sera comme lui, très délicat, très pudique, et aux émotions fortes et contenues.
Oui, parce que c'est ça, on passe du rire aux larmes, mais avec toujours un équilibre absolument parfait. C'est ce qu'on disait avec Patrick à l'instant, et c'est difficile à doser. Vous en savez quelque chose, parce que vous êtes réalisatrice aussi, Noémie. Il faut toujours essayer d'être sur cette corde quand on veut faire un film aussi sensible et qu'on le veut aussi drôle sur le ton de la comédie.
Oui.
Marie, le rôle d'Anaïs, alors c'est vrai que c'est une vraie soupape pour le personnage d'Hakim, parce que au moment où il apprend que sa mère est en rémission, il fait cette rencontre dans ce bar le soir du Nouvel An, et ça change complètement sa vie.
Oui, j'aime vraiment ce personnage, parce que je trouve que c'est un personnage bien écrit, c'est un personnage moderne, c'est une fille très ancrée, c'est une fille très directe, très vraie.
C'est ce qu'elle veut.
qui sait complètement ce qu'elle veut, complètement, et mais qui tombe absolument sous le charme de cette espèce de spécimen qui est Ellie, et de cette relation avec sa maman et de sa mère. Il y a une belle rencontre aussi entre ces deux femmes, quoi. Voilà.
C'est vrai qu'après 5 ans de combat, ce cancer en rémission fait son retour seulement un mois après, avec très peu de chance pourtant qu'il revienne. Et ça va venir effectivement au même moment où Ellie trouve l'amour. Ça va être compliqué parce qu'il va se retrouver entre Anaïs et Sylvaine. Et Sylvaine est tellement attachante, en plus, ça va être très compliqué pour lui.
Oui, et puis il s'autorise pas. C'est-à-dire qu'il y a un tel rapport entre la mère et le fils, pas d'amour incestueux, mais un rapport d'amour, qui ne s'autorise pas à vivre cette histoire d'amour. Et puis comme il a peur du mauvais œil, il parle pas de sa mère en rémission à Marie, enfin à Anaïs, il se prend les pieds dans le tapis, quoi. Il veut à la fois s'occuper de sa mère, mais il faut qu'il vive cette histoire d'amour. En s'occupant de sa mère, il néglige Anaïs, mais sans dire pour quelle bonne raison il la néglige. Enfin, il s'emberlificote les pinceaux et il se prend les pieds dans le tapis, jusqu'à ce qu'Anaïs et Sylvaine, la mère,
la rencontre.
Se rencontrent.
Et puis là, elle est belle, cette rencontre. Je trouve que c'est vraiment une très très belle scène au bar, vous verrez. En allant voir les films, le film, bien sûr, parce qu'on va pas tout vous dévoiler. Noémie, il y a des scènes très fortes et la superstition est vraiment souvent présente entre le personnage d'Elie et de Sylvaine. C'est vrai, c'est des personnages qui sont superstitieux, tous les deux.
Oui, Patrick m'a parlé, et Hakim aussi. On a beaucoup parlé du mauvais œil parce que, bon, moi j'ai comme des tics de superstition dans la vie. Je prends pas le sel de la main à la main. Si je passe sous une échelle, je croise les doigts. Si je sais pas, si j'ai le trac pour un film, je croise les doigts en touchant du bois rond qui touche le sol. Mais si je le fais pas, je suis pas dans tous mes états, quoi. Alors que Hakim m'a parlé, il me faisait rire. Il m'a parlé de ses tantes qui réellement croient au mauvais œil. Et Patrick m'a dit que lui aussi, et que sa mère aussi. Donc je me suis nourrie de tout ça. Je me suis aussi nourrie d'un truc qui m'est arrivé à la naissance de mon fils. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Et 30 ans après, ça me fait encore rire. J'étais dans le village d'origine de son père, dans la montagne, en Corse. Et notre fils était très très beau à la naissance, et il est toujours, bref. Et j'étais dans la seule et unique rue du village, avec mon fils dans son landau. Les gens du village nous croisaient, ils regardaient dans le landau. Il disait, ouh, qu'il est laid, ouh, qu'il est laid, ou pas beau. Et je comprenais pas, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et on m'a expliqué que c'est par superstition. Il faut pas dire qu'un enfant est beau. Ça m'a fait rire.
C'est dingue, ça. Patrick, c'est un film très personnel pour lui. Est-ce que vous êtes nourri un peu de ce qu'il a pu vous raconter, de personnel, toutes les deux?
Oui, je me suis inspirée un petit peu de la personne. Je voulais pas partir sur une ressemblance ou partir sur une imitation, parce que là, ce qui compte, c'est faire vivre les personnages, faire vivre les scènes, et je pars de qui je suis aussi. Mais c'est plutôt, plus que l'inspiration, c'est plutôt, j'ai ressenti une responsabilité. C'est tellement personnel et tellement sa vie que faut être à la hauteur de ça.
Oui. Quel est le meilleur souvenir qu'on pourrait raconter sur ce tournage? Est-ce qu'il y a une anecdote particulière à nous raconter? Peut-être le tournage en Grèce, je sais pas.
Les meilleurs souvenirs sont les rencontres avec Marie, et de jouer avec Marie, dont j'admire le travail depuis longtemps, enfin depuis qu'elle a commencé, je crois. De jouer avec Hakim et de travailler avec Patrick. C'est les rencontres avec chacun d'eux, et même les rencontres en préparation, avant même que ça commence à tourner. Et puis le voyage en Grèce dont vous parlez, qui est censé être au Liban, mais on pouvait pas tourner au Liban. Ça, c'était merveilleux. C'était merveilleux. C'est tourner loin de chez soi, c'est formidable, toujours. Et mon partenaire en Grèce, mais j'ai adoré jouer avec lui.
Vous verrez, on vous spoil rien, mais vous verrez qu'il y a une scène d'une poésie folle. Voilà, on va vous dire ça.
Elle est magnifique, cette scène. Plein de bons souvenirs, je suis complètement d'accord. Les rencontres, moi, la rencontre forcément avec Noémie, j'étais tellement impressionnée, et elle a tellement été gentille et bienveillante avec moi que ça m'a fait beaucoup de bien. Hakim, c'est trop chouette de travailler avec lui, c'est vraiment un garçon bien.
Un bout en train.
C'est un bout en train, ouais, on s'est bien marré. Et puis l'équipe technique, c'était une super équipe technique, voilà.
Vous allez voir un film lumineux, vous allez rire, vous allez être ému au plus profond, c'est sûr. Tout va super, va vous emmener vivre des émotions intenses mercredi au cinéma. C'est le nouveau film de Patrick Kassir. Merci Noémie, merci Marie d'avoir été avec nous. Pour en parler, on va se requitter avec un extrait.
Merci beaucoup, merci à vous.
Je cherche Sylvaine Jemoulin. Je suis son aide à domicile.
Elle est décédée.
Ah oui, c'est elle, votre maman?
Ouais, vous connaissez?
Ouais, elle m'a fait une petite blague.
Ah, je vous explique, ma mère a eu un cancer.
Ah, mince.
Qu'on a traité, hein.
Ah, bah trop bien.
Mais elle a fait une rechute.
Ah, d'accord, mince.
Vous avez déjà accompagné des malades, hein?
Non.
Mais vous êtes bien à domicile?
Ouais, mais vous serez ma première cliente. Patiente.
Ouais, vous pouvez la déposer aujourd'hui à 14h?
Oui, j'avais noté. Je veux bien des petits titres de transport, en revanche.
Mais vous avez pas le permis?
Non, bah alors ça sert à rien.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le grand plaisir de recevoir la prof de chant de la Star Academy, Sophia Morgavi, à l'occasion de la sortie de son livre. Constance Gay également sera avec nous, une des héroïnes de l'été 36, pour le grand final sur TF1. Et nous aurons le plaisir de recevoir Frédéric Courtadon, également qui officie en ce moment sur LCP avec son émission Very Important Paysan.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.